Nous relisons ces quelques versets du chapitre 2 du livre des Juges, au verset 10. Juges 2, verset 10. Et toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères, et après eux se leva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils marchèrent après d'autres dieux, dans les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, et se prosternèrent devant eux, et ils provoquèrent la colère de l'Éternel, et abandonnèrent l'Éternel, et servirent Baal et Astaroth, et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. Il les livra en la main de pillards qui les pillèrent, ils les vendirent en la main de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus se maintenir devant leurs ennemis. Partout où ils sortaient, la main de l'Éternel était contre eux en mal, comme l'Éternel avait dit, et comme l'Éternel leur avait juré. Et ils furent dans une grande détresse, et l'Éternel suscita des juges, et les délivrèrent de la main de ceux qui les pillaient. Jusque-là. N'y a-t-il pas, chers amis, quelque chose de profondément triste dans cette constatation établie par Dieu lui-même? Toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères, et après eux se leva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. C'était déjà grave de ne plus se souvenir de l'œuvre de l'Éternel, de ce que l'Éternel avait fait pour son peuple en le délivrant du pays d'Égypte, en lui permettant de traverser la mer Rouge, en prenant soin d'eux comme une mère dans le désert, dit l'apôtre Paul dans son discours à Antioche de Pisidie. Il prit soin d'eux comme une mère pendant 40 ans. Quand Dieu dit comme une mère, Dieu a tout dit. On ne peut pas prendre soin de quelqu'un mieux qu'une mère le fait vis-à-vis de ses enfants. Eh bien, Dieu a pris soin de ce peuple comme une mère, acte 13, verset 18, comme une mère dans le désert pendant 40 ans. Et puis, il y a eu la traversée du Jourdain, et puis l'introduction dans la terre promise. C'était une grande œuvre que Dieu avait faite pour son peuple. Et le jour est venu, rapidement, où on ne s'est plus souvenu d'une telle œuvre. Mais ce qu'il y a de plus grave encore, et qui est presque incompréhensible pour nous-mêmes, ils ne connaissaient plus l'Éternel. Ils ne connaissaient plus l'œuvre que l'Éternel avait faite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'extrêmement triste dans cette déclaration ? Après eux se leva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Nous nous prenons à dire, mais est-ce possible? Est-ce possible de ne plus connaître l'Éternel? Bien sûr qu'il s'agit là, disons, d'un contact personnel avec l'Éternel. On ne le réalisait plus du tout. On faisait, autrement dit, on vivait comme si l'Éternel n'existait plus. On ne connaissait ni l'Éternel, ni l'œuvre magnifique qu'il avait faite pour son peuple. Il eut donc une génération, elle a été recueillie. Remarquons en passant ce verbe « recueillir ». Toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères, comme nos anciens frères le faisaient. On annonçait qu'un frère avait été rappelé par son Dieu auprès de lui. C'est une expression combien juste. Ou bien alors, l'expression que nous avons ici, que tel ou tel a été recueilli par son Dieu. Voilà les expressions qu'il nous faut employer si nous devons annoncer le départ d'un frère, d'un proche, d'une sœur dans la foi. Ils ont été recueillis ou bien Dieu les a rappelés à lui. Mais ce verbe reprendre, il faut nous en défaire, il n'est pas selon la parole. Ce qui voudrait dire que Dieu nous a pris une fois, peut-être au jour de notre conversion, il nous a pris. du misérable état dans lequel nous nous trouvions, c'est vrai. Et puis le jour vient où il nous reprend, on pourrait expliquer encore à la rigueur ce verbe de cette façon-là. Mais employons les expressions qui sont vraiment selon Dieu. Dieu nous rappelle à lui, Dieu nous recueille auprès de lui. Eh bien voilà cette génération qui avait été recueillie vers ses pères, et après se lever cette autre génération. Et alors, depuis ce verset 11, il faut entendre ce douloureux refrain que l'on entend à 7 reprises au cours du livre des Juges. « Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et servirent les Baals. » Les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel à 7 reprises. Nous avons, comme au chapitre 13 par exemple, cette douloureuse expression. Le chapitre 13 commence par ces mots. Les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et alors, c'est l'occasion pour Dieu, dans sa grâce infinie, de susciter un juge en la personne de Samson. Mais cette fois, dans ce livre, nous avons cette constatation de cette terrible propension d'Israël à se détourner de son Dieu. Et comme l'a dit un des conducteurs dont nous aimons à rappeler la mémoire parmi nous, avec raison, quelle propension n'y avait-il pas chez ce peuple du côté de l'idolâtrie? Véritablement, Israël était foncièrement idolâtre. Combien de fois n'a-t-il pas été vers les fausses iniquités, les fausses divinités? Combien de fois n'a-t-il dit qu'il a adoré les Baals, les Astartes, etc. Vraiment un peuple porté vers l'idolâtrie. Et de temps en temps, il y a eu un épisode de lumière où l'on a vu ce peuple sous la conduite d'un juge ou d'un roi pieux, alors se tournant vers l'Éternel. Mais même dans le passage que notre frère a cité, dans le passage de Josué 24, où Josué peut dire « Il a 110 ans, chers amis ». Un homme qui arrive à sa 110e année et qui vient dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, qu'allez-vous faire, vous, peuple d'Israël? Oh, loin de nous que nous abandonnions l'Éternel. Nous allons le servir. C'est alors, mon frère a rappelé ce passage, c'est alors que Josué leur dit « Qu'est-ce que vous dites là? Vous voulez servir Dieu, mais vous ne pouvez pas. Vous êtes dans l'incapacité totale de servir Dieu. Qu'est-ce que vous venez dire? Vous allez servir Dieu. Nous vous invitons, je vous exhorte à servir, c'est-à-dire ce verbe qui a ce sens premier de rendre culte à Dieu, comme l'Épître aux Hébreux nous le dit, rendre culte à Dieu, voilà ce à quoi je vous invite, venir à Dieu, le servir, rendre culte à ce Dieu, et non pas à des divinités étrangères. Mais vous ne pourrez pas le faire. Et la preuve en est, c'est qu'on tourne la page, Josué 24, juge 1, juge 2, et nous voyons ce peuple s'adonnant à l'adoration des divinités étrangères. Le livre de Josué se termine par 2 convocations, on ne peut plus solennelles. Au chapitre 23e, nous avons une première convocation de Josué à l'endroit du peuple, à l'endroit des diverses autorités de ce peuple. Et au chapitre 24, une nouvelle convocation alors que Josué est tout près de quitter cette terre. Il le dit lui-même, « Je m'en vais ». Prendre le chemin de toute la terre. Eh bien, j'ai quelque chose à vous dire. Au chapitre 23e, il y a là 3 exhortations d'une précision remarquable. En Josué 23, verset 6, un premier appel. Fortifiez-vous beaucoup pour garder et pour pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Deuxième exhortation, verset 8. Vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Et enfin, la 3e exhortation, verset 11, prenez bien garde à vos âmes pour aimer l'Éternel, votre Dieu. C'est là la première chose, chers amis. Aimer l'Éternel pour le peuple, aimer le Seigneur pour nous-mêmes. Le Seigneur nous a accordé 3 jours de bénédiction dans la lecture et la méditation ensemble de sa parole. qu'allons-nous retirer de cette lecture ? Nous a été donné de nous occuper strictement d'un chapitre, le chapitre 3e de l'Épître aux Philippiens. Il forme dorénavant comme un tout. Il nous faut revenir à ce tout, il nous faut revenir à cette synthèse de l'activité, de l'énergie de l'apôtre Paul. Son énergie coutumière de chaque jour, c'était de tendre vers Christ, pourvu que je gagne Christ. Et cela, somme toute, la pensée dominante de ce chapitre 3e. Gagner Christ. J'ai été saisi par le Christ, maintenant... Ma responsabilité est de le saisir. Je désire gagner Christ. Cela veut dire qu'on aime le Seigneur. L'apôtre Paul aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur d'une façon absolument extraordinaire. Il est unique. Notre frère Louis Chaudier nous a souvent parlé de cet homme qu'était l'apôtre Paul. Dire qu'il y a eu sur la terre un homme, un serviteur de Dieu qui a pu dire ceci. Est-ce que vous avez bientôt fini de faire pleurer mon cœur en m'empêchant d'aller à Jérusalem ? Vous me dites que si je vais à Jérusalem, les Juifs vont me tuer. Mais que voulez-vous que cela me fasse, semble dire l'apôtre ? Ne savez-vous donc pas, acte 21, que je suis un homme toujours prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Vous vous imaginez cela ? Que sur la terre, il y a eu un jour un homme, un serviteur de Dieu, dont l'amour pour son Seigneur a été tel qu'il a pu dire « Je suis toujours prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus ». Et dans l'épître qui nous a occupés durant ces jours, nous avons le même homme, le même serviteur qui a pu dire ceci, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup meilleur. Un homme a pu dire cela. Non seulement je sais que je vais déloger, il est bien possible que je déloge, à moins que le Seigneur vienne auparavant, mais j'ai le désir à avoir dans son cœur, voilà quel était le désir de ce serviteur, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. Voilà ce qu'un homme, un serviteur de Dieu a pu dire sur la terre. D'une part, toujours prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. D'autre part, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. Quel exemple l'apôtre Paul nous laisse, chers amis. Ah, nous comprenons l'expression. Soyez donc mes imitateurs. Ah, nous comprenons. Véritablement, il est digne que nous regardions à lui comme lui-même regardait au Seigneur. Regardant à lui, nous regardons immanquablement au Seigneur. Eh bien, l'apôtre Paul nous a donc laissé un enseignement très riche au plan pratique avec l'épître aux Philippiens. Il nous a été donné de nous occuper du chapitre 3e. En effet, comme nous avons été exhortés tout à l'heure, puissions-nous nous souvenir, mais profondément, sérieusement, revenir aux enseignements de ce chapitre, que ce chapitre nous devienne véritablement d'une connaissance coutumière, que nous le connaissions, que nous le possédions désormais. Revenons aux enseignements de ce chapitre de l'Épître aux Philippiens. Nous avons lu, donc, dans le livre de Josué, nous avons donc vu cette exhortation à nous attacher à l'Éternel. Prendre garde à aimer l'Éternel, chers amis, c'est la chose première, aimer le Seigneur. Tous les frères qui nous ont enseigné, sans exception, que vous preniez les plus intelligents qui étaient suscités sur la terre, comme un William Kelly, tous ces frères, et nous pensons au conducteur ici sur le plateau dans le témoignage du Seigneur, tous ont été caractérisés par cela, ils aimaient le Seigneur. C'est la première chose. C'est la première chose, c'est l'amour du Seigneur qui les a dirigés et soutenus dans leur service. Que pensaient les chers frères qui nous ont enseigné ici sur le plateau ? Les Jean-Louis Moula de la Suchère, les Jérôme Lebras à Pagué, les Daniel Courtial à Mars, les Lévi Grand au Rioux. Que pensaient ces frères ? Quel témoignage que celui qui a été rendu par eux, et quel don avait-il reçu de la part du Seigneur ? Ah, les frères sur le plateau ont été particulièrement privilégiés. Ils ont eu des hommes de Dieu à la tête, on peut le dire, nous employons cette expression qui est une expression de la parole. Il est parlé de serviteurs dans les actes qui étaient à la tête parmi les frères. Ces frères étaient des conducteurs et Dieu, par leurs moyens, a donné une nourriture riche, enrichissante, substantielle et nos frères qui ont bénéficié du ministère de ces frères ne sont plus nombreux aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns parmi nous, notre frère ici par exemple, qui a su véritablement ce qu'était que l'enseignement de Daniel Courtial. Dieu a béni visiblement son témoignage sur le plateau en accordant des serviteurs. Il faudrait citer également un Firmin à Genève dont nous venons de lire quelque chose quant à sa correspondance avec certains frères de Suisse, un frère qui a été également remarquablement doué. Puissions-nous nous souvenir nos conducteurs, et le passage a été rappelé, l'exhortation a été rappelée dans l'Épître aux Hébreux cet après-midi. Souvenez-vous de vos conducteurs. Au verset 7 du chapitre 13, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Nous avons trois fois la mention des conducteurs. Il y a ici la mention des conducteurs qui sont morts. Le Seigneur les a rappelés à lui. Nous avons à nous souvenir d'eux. Souvenez-vous de vos conducteurs. Pourquoi, chers amis ? Parce qu'ils ont annoncé la parole de Dieu. Voilà le motif de notre souvenir à l'endroit de ces conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et alors, est-ce qu'il est dit que nous devons les imiter ? Il arrive bien quelquefois que nous ne voudrions pas porter un jugement. Par exemple, sur un jeune frère qui a été saisi d'admiration pour un conducteur, le don qu'il a reçu, et il lui est arrivé dans la suite, le Seigneur l'appelant à son service, de s'exprimer un peu comme ce conducteur, de faire les mêmes gestes que lui, d'employer la même intonation. Nous ne pouvions pas porter un jugement sévère, c'est tellement naturel que cela puisse se produire. On est tellement saisi par le don d'un serviteur, d'un conducteur, qu'à notre tour, on se met à employer la même intonation quand nous présentons la parole. Signe que nous sommes véritablement imprégnés de l'enseignement de ce frère et que pour lui, nous avons un grand amour. Ce que nous avons à imiter, c'est donc pas tant les attitudes, les gestes, l'intonation dans le discours d'un frère, d'un conducteur. Ce que nous avons à imiter, c'est leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Voilà ce que nous avons imité, chers amis. C'est la foi de ces hommes de Dieu. Une foi qui était ancrée en une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alors, au verset 17, il est parlé des conducteurs qui sont vivants, ils sont en vie parmi nous. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes comme ayant à rendre compte. Et enfin, au verset 24e, les salutations sont adressées à eux. Verset 24, saluez tous vos conducteurs et tous les saints. On voit quand même que dans la pensée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, une distinction est faite. Il y a un respect qui doit être accordé à celui qui a la responsabilité d'être un conducteur au milieu du troupeau du Seigneur Jésus. Ce sont les trois passages où il est parlé des conducteurs, tout à la fin de l'Épître aux Hébreux, et cela est d'autant plus frappant que le sujet de l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus. C'est Jésus. 9 fois, nous avons le nom de Jésus. C'est Jésus, le Christ céleste, que l'on est appelé à voir. C'est Jésus, véritablement, le sujet de l'Épître. Et cette Épître se termine par cette mention, 3 fois, dites les conducteurs. Morts, les conducteurs vivants, et puis une salutation particulière pour eux. Que le Seigneur nous donne de mettre en pratique une telle exhortation. et de nous souvenir des conducteurs qu'il nous a donnés et par lesquels nous n'avons pas été bénis, ils ont été richement bénis. Que Dieu nous donne de nous souvenir de tels conducteurs. Alors au chapitre 24e de Josué, nous avons une deuxième convocation et le peuple se réunit avec les autorités d'une façon particulière de ce peuple et il est très beau de voir combien la grâce de Dieu est exaltée dans ces dernières paroles de Josué. Nous avons ce pronom « je » en parlant de l'Éternel qui est si souvent mentionné. Lisons simplement verset 3 du chapitre 24. « Je pris votre père Abraham au-delà du fleuve, je le fis aller par tout le pays de Canaan, je multipliai sa semence, je lui donnai Isaac, je donnai Isaac à Jacob et Esaü, etc. » 21 fois, nous avons ce petit pronom « je » pour définir tout ce que l'Éternel a fait dans sa grâce pour son peuple et pour leurs ancêtres. C'est une exaltation de la grâce de Dieu. Alors, en retour d'une telle grâce, nous avons ce sentiment aigu de la responsabilité de celui qui appartient à Dieu, qui appartient au peuple de Dieu, et Josué la met en évidence par ses paroles hautement connues parmi nous, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a donc une génération qui s'en est allée, rappelée par Dieu à lui-même. Une autre génération est venue et chacun sait combien délicat est ce passage. Notre frère l'a rappelé tout à l'heure, ce passage des générations qui n'est pas un passage facile. Nous entendons nos enfants, pas encore nos petits-enfants, mais nos enfants nous dire « Mais papa, tu nous parles toujours de ses frères, mais nous ne savons pas du tout qui c'est. Tu nous parles, tu nous cites leur nom, tu nous cites leur prénom, mais nous, nous ne savons pas qui ils sont, nous ne connaissons pas. » Et quelquefois, nous oublions un peu cela, nous jouissons intensément du ministère écrit qui nous a été laissé par de tels frères, mais nos enfants ne les ont pas connus, nous-mêmes les avons connus, eux ne les ont pas connus. Il y a quelque chose de délicat dans ce passage, déjà rien que nous le réalisons, le passage des parents à leurs enfants. Le passage des générations est certainement une question des plus délicates qui soit et à laquelle nous devons penser. Nous arrivons à la fin de l'heure qui nous est assignée, mais puisque notre frère a parlé du fait de se souvenir, de lire, d'écrire, nous aimerions dire encore un mot sur deux versets du chapitre 17 du livre du Deutéronome. Au chapitre 17 du livre du Deutéronome, il est écrit ceci, au verset 18, en rapport avec le roi qui serait établi par Dieu lui-même pour la conduite de son peuple. Deutéronome 17, verset 18, il arrivera lorsqu'il sera assis, ce roi, sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, faite d'après le livre qui est devant les sacrificateurs, les Lévites, et il l'aura auprès de lui, et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à garder toutes les paroles de cette loi, ses statuts pour les faire, en sorte que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, mais qu'il ne s'écarte pas du commandement, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Nous avons là cette ordonnance remarquable concernant le roi et les responsabilités du roi établi par Dieu sur son peuple. Trois choses ne devaient pas être faites par ce roi. La première, c'est d'avoir beaucoup d'or et beaucoup d'argent. La deuxième, c'est d'avoir une multitude de femmes. Et le danger qui est souligné, c'est que ces femmes seraient des étrangères et entraîneraient le cœur de ce roi vers d'autres dieux, l'amèneraient à abandonner le vrai Dieu pour aller adorer de fausses divinités. Et alors la troisième chose, il ne devait pas avoir beaucoup de chevaux. La première, c'est ne pas avoir beaucoup de chevaux, pas avoir beaucoup de femmes et pas avoir beaucoup d'or et d'argent. N'est-il pas frappant que le roi Salomon a manqué sur ces trois points ? Le roi Salomon, le roi humainement parlant le plus glorieux qui ait été donné aux enfants d'Israël, l'homme auquel une sagesse extraordinaire a été donnée, une érudition, une capacité de connaître tout. Cet homme savait tout. Il savait tout. Dans le domaine des choses visibles, des choses au monde, il savait absolument tout. 1 Roi 4, 33 nous le dit. Il savait absolument tout. Eh bien, cet homme-là, qui a si bien commencé, qui a bien continué, eh bien voilà comment il achève sa vie. Il manque sur ces trois points, et en particulier, lui qui était ce jeune homme, s'adressant à son Dieu, pour lui dire, « Oh Dieu, donne-moi un cœur simple, qui me rende capable d'entrer et de sortir. » Ce jeune homme devient à la fin de sa vie un idolâtre. C'est le cas de dire, chers amis, qu'on a besoin d'être gardé toujours. Et l'on entend encore le témoignage de quelques frères âgés arrivant au terme de leur carrière, disant encore, « Je réalise le besoin d'être gardé par Dieu toujours, tous les jours. » Alors si des vieillards le disent et en expriment le besoin, que devons-nous nous-mêmes penser de combien nous avons besoin d'être gardés et d'être gardés chaque jour? Alors il y a trois choses que ce roi devait faire, trois choses qu'il ne devait pas faire, trois choses qu'il devait faire, et c'est ce que nous avons lu. Tout d'abord, écrire pour lui dans un livre une copie de cette loi. Il devait écrire une copie, l'écrire. Et puis il n'est pas dit qu'il devait prendre des scribes pour le faire. Lui-même devait écrire cette copie du livre de la loi. C'est ce que nous avons dans le sens chrétien, l'exhortation qui est adressée par Paul à Timothée, quand Paul lui dit « Aie un modèle des choses, des saines paroles que tu as entendues de moi dans l'amour et dans la foi de Jésus-Christ. » Aie un modèle, ou comme nos frères en Allemagne disent, aie une image des paroles que tu sais, Timothée, je vais partir. On est avec la deuxième épître à Timothée, on en est à la dernière épître de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va quitter cette épître, il fait allusion à sa mort dans cette épître. Il va partir. Et Timothée, humainement parlant, tu seras seul. Il faut que tu aies une copie, que tu aies comme un ensemble des paroles, un exposé des paroles saines que tu as entendues de moi. Il faut que tu aies cette copie, il faut que tu aies ce modèle, il faut que tu l'aies. Eh bien, c'était le cas pour le roi. Il devait donc avoir une copie du livre de la loi, mais ça ne suffit pas, chers amis, de copier des passages de la parole de Dieu. Encore faut-il avoir cette copie près de soi, toujours à disposition, non pas reléguée quelque part, on ne sait où, mais l'avoir près de soi. Puis ça ne suffit pas encore, il y a une troisième chose, il faut y lire tous les jours de sa vie. Il écrira une copie, il l'aura près de lui, et il y lira tous les jours de sa vie. Voilà ce qui est important, chers amis. Lire tous les jours de notre vie la parole de Dieu, ce que Dieu nous... Lire pour nous-mêmes tout d'abord, au sein de nos familles, et puis alors, évidemment dans l'Assemblée. C'est la lecture de la parole de Dieu qui compte. Quand il est dit en 1 Timothée 4, attache-toi à la lecture, ce n'est pas la lecture personnelle de la parole de Dieu. Nos frères en Allemagne ont un verbe particulier pour cela, c'est-à-dire ce que, vis-à-vis de la parole de Dieu, lis-la devant telle ou telle assistance, lis-la dans l'assemblée, attache-toi à la lecture, attache-toi à l'enseignement et attache-toi à l'exhortation. Voilà. Attache-toi à la lecture. La lecture dans l'assemblée. La lecture en présence d'une assistance. Eh bien, chers amis, voilà ce que le roi devait faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il devait copier le livre de la loi? Pourquoi est-ce qu'il devait l'avoir toujours près de lui? Pourquoi est-ce qu'il devait y lire tous les jours de sa vie? Eh bien, afin de craindre l'Éternel, nous comprenons bien, afin de garder les statuts de cette loi, afin de les faire, mais il y a un autre but auquel nous ne pensons pas. Et combien il est important quand il est dit « En sorte que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères ». Voilà pourquoi il fallait écrire cette copie du livre de la loi, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. La parole de Dieu nous enseigne l'humilité, chers amis. l'humilité devant Dieu, mais l'humilité vis-à-vis de nos frères. La connaissance enfle, même la connaissance des choses de Dieu. La connaissance des choses de Dieu enfle. Et l'apôtre peut le dire, la connaissance, il ne précise pas, il dit la connaissance, quelle qu'elle soit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Nous avons besoin de prendre garde à cela. Avoir une grande connaissance de la parole de Dieu pour ensuite nous élever au-dessus de nos frères dans la pensée que nos frères, nos sœurs sont loin d'avoir la connaissance que je possède de la parole de Dieu. C'est très sérieux, cela. Eh bien, voilà ce que la parole de Dieu m'enseigne, l'humilité, afin que mon cœur ne s'élève pas au-dessus de mes frères. C'est très important, cela. Cette humilité vis-à-vis de nos frères acquise par la lecture de la parole de Dieu. C'est pas tant l'acquisition d'une somme de connaissances intellectuelles concernant la parole de Dieu, c'est pas de cela qu'il est parlé. Tu connaîtras la parole, tu écriras cette copie du livre de la loi afin que ton cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Cette expression, cette conséquence de la lecture de la parole de Dieu nous a toujours personnellement frappés. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Voilà donc ce qui était demandé de ce roi, que l'Éternel établirait un jour sur son peuple. Il est parlé d'écrire. Autrefois, on écrivait beaucoup plus, chers amis. Nous entendons encore nos pères nous dire « Ce que tu écris demeure beaucoup plus facilement dans ta mémoire et dans ton cœur que ce que tu entends simplement. Écris ce que tu entends, cela restera. » Tous ceux qui écrivent, chers amis, à propos des choses de Dieu, d'un livre ou d'un autre livre, la parole de Dieu, le réalisent que cela demeure en nos cœurs beaucoup plus que si nous l'avons simplement entendu. Autrefois, vis-à-vis des enfants qui nous étaient confiés à l'école du dimanche, on demandait régulièrement d'écrire des versets de la parole de Dieu. En bien des endroits, une telle coutume est abandonnée. Et cela est très regrettable, très regrettable. Les frères, les sœurs qui sont appelés à s'occuper des enfants, à l'école du dimanche par exemple, devraient continuer à encourager les enfants à écrire un verset ou deux versets de la parole de Dieu pour le dimanche suivant. Encourager nos enfants à écrire quelque chose de la parole de Dieu, cela restera dans leur cœur beaucoup plus que ce qu'ils auront entendu pendant l'heure ou pendant la demi-heure d'école du dimanche. Pensons à cela. Écrire la parole de Dieu, écrire des versets de la parole de Dieu, des passages de la parole de Dieu. Encourageons nos enfants à cela, comme les anciens frères le faisaient habituellement. Voilà, chers amis, pensée bien sérieuse que cette ordonnance si belle, cette ordonnance de la part d'Éternel concernant le roi qui serait établi un jour sur Israël. Puissions-nous nous-mêmes prendre bonne note de tels enseignements, lire dans la parole de Dieu chaque jour de notre vie. La lecture personnelle et la lecture importante au suprême degré, lire la parole de Dieu, et puis la lire au sein de nos familles, la lire dans l'assemblée. Et puissions-nous, en lisant ainsi la parole de Dieu, nous souvenir de tout ce qui nous a été donné, chers amis, pour que nous puissions quand même comprendre ce que nous lisons. Il y a eu un homme, une fois, en l'eunuque d'une reine, qui a dit au serviteur de Dieu, « Tu me demandes si je comprends ce que je lis. » Ésaïe 53. Tu me demandes si je comprends. Mais comment est-ce que je pourrais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Quelle belle attitude, chers amis. Quelle belle réflexion. La réflexion de cet homme venu d'un pays païen qui peut dire comment est-ce que je pourrais comprendre? Mais de qui est-ce que le prophète parle? Il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas. Comprends-tu ce que tu lis? Mais comment est-ce que je pourrais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Dieu a pourvu à ce fait-là que nous ayons de sa part, par un ministère écrit, solide, substantiel, que nous ayons ce qu'il nous faut pour que nous puissions comprendre sa pensée, ses pensées, sa parole. Et puissions-nous apprécier un tel ministère, puissions-nous recourir à ce ministère de frères hautement doués qui depuis longtemps sont maintenant auprès du Seigneur.